Émilie Montaler.
Bonjour. Les éleveurs doivent garder le taux de consanguinité du cheval Franche-Montagne sous contrôle. La Fédération suisse renonce à réguler la race par l'apport de sang étranger. D'autres mesures devront être appliquées. Recep Tayyip Erdogan reste président de la Turquie pour les 5 prochaines années. Pour la première fois, il a toutefois dû passer par un deuxième tour, peut-être le signe d'un certain essoufflement de sa politique au sein de l'opinion. Le Canada est champion du monde pour la 28e fois de son histoire. Les hockeyeurs à la feuille d'érable ont battu une surprenante Allemagne 5-2 hier en finale à Tampere en Finlande. Météo, le soleil est au rendez-vous de ce lundi de Pentecôte. Le temps sera toutefois ventilé par une bise sensible cet après-midi. Il fera jusqu'à 24 degrés en plaine, 19 à 1000 mètres. Le maintien d'une race pure accroît le risque de consanguinité chez le cheval Franche-Montagne. L'Assemblée des délégués avait décidé en fin d'année passée de renoncer au projet d'apport de sang étranger pour ne pas prendre le risque de perdre le statut de race suisse et les primes d'élevage pour les juments. D'autres mesures doivent ainsi être envisagées pour maintenir une certaine diversité génétique. Émilie Beret, membre de la commission d'élevage de la Fédération suisse et du Franche-Montagne.
On sait que dans une race fermée, dans un studbook fermé, on a toujours des problèmes de consanguinité, c'est un problème qui doit être géré. Et justement, le fait qu'on puisse plus apporter du sang, ou en tout cas dans un moyen court terme, on doit trouver des autres solutions afin de gérer cette consanguinité.
C'est quoi les pistes actuelles ?
Alors nous avons fait une proposition à l'Assemblée des délégués de la FSFM concernant notamment les degrés de parenté des étalons, certaines mesures au niveau de la sélection des étalons. Il n'y a pas eu d'entrée en matière, donc c'est des mesures qui n'ont pas été discutées. Donc on devra maintenant revenir avec des nouvelles propositions. On a peut-être des mesures qui seront un peu plus simples. On pourrait envisager des mesures qui se font dans des autres races, qui sont notamment au niveau de la gestion des étalons, de la durée de l'utilisation des étalons, du nombre de poulains par étalon. Donc ça, c'est des choses qui se font dans des autres populations qui pourraient être discutées aussi au niveau du cheval Franche-Montagne, mais pour l'instant, rien n'est fait du tout.
Vous disiez qu'il y a aussi des compromis à faire.
Oui, on sait que jusqu'à présent, comme on réglait la consanguinité avec les apports de sang, on n'avait jamais à faire de compromis sur le but d'élevage. Donc l'apport de sang permettait non seulement d'essayer de gérer la consanguinité et aussi d'apporter une plus-value pour atteindre les buts d'élevage. Maintenant, si l'apport de sang ne peut pas se faire, la consanguinité va devoir être gérée de manière un tout petit peu différente, ce qui va demander aussi certains petits compromis. Donc ça signifie que dans la sélection, dans les épreuves d'élevage, on devra peut-être aussi tenir compte de certains autres critères qui n'étaient pas pris en compte jusqu'à présent, au niveau de la consanguinité, peut-être au niveau du degré de parenté aussi.
Est-ce qu'on risque pas de perdre la qualité ?
Je pense que la qualité qu'on a maintenant dans le cheval Franche-Montagne, elle est vraiment excellente. On sait qu'on a un cheval qui est très demandé aussi au niveau du grand public. On sait que le cheval, il correspond tout à fait à ce qu'on voudrait. On a encore des choses à travailler, mais je pense qu'on peut tout à fait faire les deux en parallèle, donc gérer la consanguinité et trouver des compromis pour atteindre le but d'élevage qu'on souhaite. Donc il n'y aura pas de mise de côté de la qualité pour gérer la consanguinité. Je pense que ce sera plutôt des chemins à trouver en parallèle.
Selon la Confédération, le taux de consanguinité ne doit pas dépasser 10%. De son côté, la FSFM recommande environ 7%, comme c'est actuellement le cas. Elle encourage les éleveurs d'utiliser son logiciel du poulet virtuel avant de procéder à des accouplements. Détails sur notre site internet. Le premier tofu 100% jurassien est produit depuis une année au pied du Pichou. Léa Petit-Jean-Guiziguer et son mari Grégoire ont lancé cette nouvelle activité au sein de leur exploitation agricole à Berlincourt. Ils veulent ainsi proposer un aliment végétal bio qui soit une alternative aux protéines animales. Léa Petit-Jean-Guiziguer nous explique comment est venue cette idée de fabriquer du tofu.
Ça nous est venu de place. Mon mari avait beaucoup voyagé quand il était plus jeune en Asie et il avait toujours été intéressé par cette fabrication de tofu, d'autant qu'il se projetait quand même depuis jeune dans l'exploitation familiale de ses parents qu'il pensait un jour reprendre et qu'on a repris ensemble en 2018. Et puis voilà, le tofu, ça s'intègre extrêmement bien dans notre philosophie. On vend de la viande, on vend des céréales, de la farine, des tas de choses et du tofu maintenant en circuit court, en vente directe. Le soja est produit sur la ferme par mon mari, donc vraiment du début à la fin du produit, c'est produit ici et puis c'est vraiment ce qu'on veut.
Alors justement du tofu, comment ça se fabrique ?
Mon mari nous sème du soja, on le récolte et puis ensuite on le fait tremper, on fait tremper les graines de soja dans l'eau pendant de nombreuses heures et puis puis ensuite on extrait le jus de soja, autrement appelé lait de soja, on peut aussi dire, mais c'est mieux de dire jus de soja, de ces fèves de soja qui ont été trempées, qu'on cuit, on cuit ce jus et ensuite on le fait cailler, et puis après on peut l'assaisonner, le mouler comme on le souhaite, et puis fabriquer le tofu.
Vous customisez votre tofu ?
Oui, on a plusieurs recettes. J'ai une recette que j'ai appelée du nom de ma grand-maman Anne-Marie, j'ai appelée recette de l'Anma, parce que ma grand-maman m'avait légué une recette de bouillon de légumes que j'ai mis dans le tofu et j'ai trouvé que ça donnait un goût excellent. Et on a aussi maintenant le tofu des Melna, donc c'est une recette avec de l'ail des ours et j'ai plein de projets pour l'été avec des nouveaux arômes.
Le tofu du Pichou est vendu en vente directe au magasin de la ferme Ecotone à Berlincourt ainsi que dans différents petits commerces de la région. Indéboulonnable, Recep Tayyip Erdogan a été confirmé hier pour 5 années supplémentaires à la tête de la Turquie. Il s'agissait d'un deuxième tour inédit pour le président turc, réélu après déjà 20 ans passés au pouvoir. Son rival Kemal Kılıçdaroğlu n'a pas su convaincre avec 47% des voix. S'il s'agit d'une victoire au final pour Recep Tayyip Erdogan, sa politique a toutefois été vivement critiquée, d'où ce deuxième tour. Un signe peut-être d'un certain épuisement de la Turquie pour son projet. L'analyse de Jordi Tergel, professeur titulaire en histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel.
Il a réussi à mobiliser son électorat traditionnel et aussi une certaine méfiance vis-à-vis du candidat de la coalition en opposition. Donc il y a effectivement une large majorité de Turcs qui encore préfèrent la politique de l'AKP. Et puis de l'autre côté, nous avons eu aussi la mobilisation d'une bonne partie de la société turque qui est quand même fatiguée de 20 ans de gouvernement de l'AKP et puis où il y a des questions délicates hein, de l'économie, la situation économique en Turquie n'est pas riante. Il y a eu un tremblement de terre aussi. Il y a aussi la question de réfugiés. Et d'ailleurs, c'est cette question de réfugiés qui s'est imposée paradoxalement comme le grand thème du second tour des élections.
Est-ce que c'est ça qui a joué au final sur les résultats ?
Disons que Erdogan a ramené le débat là où ça l'intéressait, c'est-à-dire vers des questions de sécurité nationale, de nationalisme, parce que c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'en Turquie, il y a un consensus assez général autour du nationalisme turc qui est très présent dans la plupart des partis du système turc, sauf exception évidemment des partis pro-kurdes. Donc, Erdogan a joué sur ces questions-là, d'une part en accusant l'opposition justement de s'allier, d'être soutenu par ce qu'il appelait les terroristes kurdes, et aussi sur la question des réfugiés.
Des propos recueillis par Cécile Détra. Plus d'informations et d'analyses sur ces résultats du deuxième tour de la présidentielle turque sont à retrouver sur notre site internet. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé aujourd'hui la convocation d'élections législatives anticipées. Ce sera le 23 juillet en Espagne. Cette annonce surprise intervient au lendemain d'une déroute sans appel de la gauche face aux conservateurs lors d'un double scrutin municipal et régional. 4 personnes ont perdu la vie hier dans le chavirement d'un bateau de tourisme sur le lac Majeur dans le nord de l'Italie. Le bateau de 16 mètres de long s'est retourné au large de Licenza, à l'extrémité sud du lac, alors que le temps était soudainement devenu orageux et que le vent soufflait fortement, selon les pompiers. Une 20aine de survivants parmi les passagers ont été sortis de l'eau par d'autres bateaux ou ont pu nager vers le rivage. Aucun n'a été grièvement blessé, d'après des médias italiens. Et l'Ukraine a intercepté 37 missiles de croisière et 29 drones de combat russes pendant une nouvelle attaque nocturne de Moscou. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Il n'y a ni morts, ni blessés, ni dégâts majeurs. Pour la deuxième nuit consécutive, c'est la capitale Kiev qui a été particulièrement visée par la Russie. Sport. Le Canada a repris sa place au sommet du hockey sur glace. Les joueurs à la feuille d'érable ont battu l'Allemagne 5-2 hier soir en finale du championnat du monde à Tampere en Finlande. Menés à 2 reprises, ils ont fait la différence dans le dernier tiers. Le Canada enlève ainsi un 28e titre record. Son défenseur, Pierre-Olivier Joseph.
Ça fait absolument du bien, juste pouvoir gagner avec, comme j'ai dit tantôt, avec ce groupe-là, c'est incroyable. C'est définitivement un moment que je ne vais jamais oublier au cours de ma carrière et c'est définitivement un moment que je vais prendre et pouvoir grandir.
Qu'est-ce qui fait la force de ce Canada qui se retrouve à chaque fois en finale avec des joueurs voilà, qui se découvrent au début du tournoi? Comment expliquer que vous arriviez à chaque fois à performer à ce niveau-là?
Je pense que c'est les Canadiens en général. Je pense qu'on se respecte autant sur la glace qu'à l'extérieur de la patinoire. Je pense que c'est un sport national au Canada. Alors, ça fait longtemps qu'on y joue et à chaque fois qu'on embarque sur la patinoire, on veut juste gagner. Alors, on est vraiment compétitif, mais je pense que c'est juste la manière qu'on se rencontre les joueurs et que notre chimie d'équipe est juste extraordinaire à chaque année.
La médaille de bronze est revenue au second pays hôte, la Lettonie, qui a battu les États-Unis 4-3 après prolongation lors de la petite finale. La descente aux enfers continue pour Jill Teichmann. La joueuse de tennis biennoise a été battue au premier tour de Roland-Garros hier par l'Italienne Sarah Errani. Le score 3-6, 6-4, 6-2. Cette défaite va l'éjecter du top 100. Elle qui pointe à la 21e place WTA l'été passé, après avoir atteint les 8e de finale du Grand Chelem parisien. Jill Teichmann.
Je ne vais pas mentir maintenant, c'est dur pour moi, parce qu'encore j'ai eu des chances, mais bon, mes dernières semaines sont comme ça, un peu. J'ai des chances, c'est serré, et il y a un moment que ça tourne, et voilà. Mais bon, je ne vais pas arrêter de sortir au corps, d'essayer de me donner une chance, et je vais encore essayer chaque jour de donner mon 100%, et il y a un moment que ça va tourner, parce que c'est ça, c'est pas que je perds 6-2, 6-2, et voilà, j'ai pas le niveau, c'est pas du tout ça, le niveau il est là, c'est juste de le retrouver, voilà.
Aujourd'hui, c'est Belinda Bencic qui fait son entrée en lice sur le tableau féminin. La Sagaloise affronte Elina Avanessian vers 13h30. Classée 134e mondiale, la Russe a été repêchée après s'être inclinée au dernier tour des qualifications. Blessée à une hanche, Belinda Bencic n'a plus joué en compétition depuis début avril. Elle arrive en manque de repères à la Porte d'Auteuil.
Oui, c'est juste, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je me suis entraînée, mais pas vraiment en situation de match. Je ne me suis pas encore mesurée contre d'autres joueuses, donc je ne sais pas vraiment quel est mon niveau réel de jeu. Je joue ok, solide, mais je ne sais pas comment cela ira dans un match. C'est pourquoi je ne suis pas venue ici avec de grandes ambitions. Mais je suis ici pour tout donner, jouer avec tout ce que j'ai en moi en ce moment.
Stan Wawrinka pourrait lui faire son entrée aux alentours de 13h. Le Vaudois affronte Albert Ramos-Vinolas. Il reste sur 4 éliminations au premier tour en Grand Chelem, mais il se sent physiquement et tennistiquement prêt pour répondre présent face à ce spécialiste de la terre battue, Stan Wawrinka.
Je me sens très bien, je suis très content d'être là une année de plus. Je pense que je me suis bien préparé du mieux que je pouvais, physiquement, tennistiquement, je me sens à un très bon niveau. Voilà, je suis excité et impatient de commencer ce Roland-Garros. C'est toujours particulier de jouer un grand chelem, il y a toujours un feeling différent. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois qu'on arrive en grand chelem. En plus, je sais que j'y arrive à la fin, donc j'essaie d'en profiter encore plus. J'ai joué lundi contre Ramos, un joueur que je connais bien puisqu'on s'est joué plusieurs fois durant nos carrières. C'est un joueur toujours compliqué à manœuvrer, compliqué à jouer. Il faut être présent. C'est un joueur qui fait peu de fautes, qui met beaucoup de pression. On l'a vu l'année passée, je crois qu'il avait servi pour le match contre Alcaraz. Il est toujours présent, il est là. Il faut vraiment jouer son meilleur tennis pour pouvoir le battre.
Autre représentant helvétique engagé aujourd'hui à Roland-Garros, Marc-André Hüsler affrontera l'Allemand Daniel Altmaier vers 18h, tandis que Simona Walterte jouera contre l'Américaine Elisabeth Mendlik, également issue des qualifications. Ce sera vers 19h. Merci pour votre écoute. Bel après-midi.